Belle soirée sur France Culture. 22h, le journal.
Plan. Bonsoir. Un plan de financement de 2,3 milliards d'euros supplémentaires pour financer un Brexit sans accord. Boris Johnson a décidé de doubler le budget dans la perspective de cette option. Le Premier ministre britannique qui passe ce soir son premier test électoral, précision de Marina Daras au début de ce journal. En Russie, la situation sociale se dégrade. Une statistique recense 500 000 nouveaux pauvres en 2019, loin des objectifs affichés par le président Poutine. Explication à suivre d'Élise Delève. La colère ne retombe pas à Nantes. Après le compte-rendu de la police des polices sur la mort de Steve Maya Canisso, le sentiment d'injustice est même renforcé par le témoignage d'un jeune cité dans le rapport de l'IGPN. Nous l'entendrons. La mort de Steve, qui n'est pas sans lien avec la dégradation de permanence d'élus LREM. Ces 24 heures, c'est celle du délégué général du parti, Stanislas Guérini, qui a été tagué, mais aussi celle de trois élus du Val-d'Oise. Compte-rendu de Sophie Delpont à la fin de ce journal. Au Royaume-Uni, Boris Johnson passe son premier test électoral ce soir. On attend les résultats d'une législative partielle qui se déroule au pays de Galles, une élection qui pourrait affaiblir le nouveau Premier ministre. Elle pourrait ramener sa faible majorité parlementaire à seulement une seule voix. De quoi compliquer la stratégie du gouvernement pour le Brexit, à savoir une sortie sans accord au 31 octobre. En tout cas, c'est la perspective qui s'annonce, à voir les 2,3 milliards d'euros supplémentaires alloués aujourd'hui à cette option. Marina Daras.
Stockage de médicaments, douaniers supplémentaires aux frontières et amélioration des infrastructures portuaires. Ces 2,3 milliards d'euros devraient turbocharger les préparations en cas de sortie sans accord. Turbocharger, c'est le terme utilisé à plusieurs reprises par Boris Johnson et par son gouvernement pour décrire sa stratégie de préparation alors que les négociations pour atteindre un accord de sortie semblent être au point mort. Parmi les mesures annoncées par le chancelier Sajid Javid, 377 millions d'euros seront consacrés à de nouvelles opérations frontalières et douanières et 118 millions au soutien des petites et moyennes entreprises en cas de Brexit chaotique pour faciliter le passage aux douanes et saisir de nouvelles opportunités. Tout ceci est conçu pour atténuer un possible engorgement du réseau de transport de marchandises autour de Douvres et de Calais. Une partie de cette bourse supplémentaire devrait également servir à informer le grand public et notamment les citoyens britanniques résidant à l'étranger. Ce montant s'ajoute aux 4,5 milliards d'euros alloués depuis 2016 par le précédent chancelier Philippe Hammond. Cela porte donc à près de 7 milliards d'euros la somme totale allouée aux préparatifs en vue d'un Brexit sans accord. Pour l'opposition, c'est un gaspillage effroyable de l'argent des contribuables.
Les précisions de Marina Daras à Londres. C'est le dernier bastion djihadiste en Syrie. Depuis 3 mois, les aviations russes et syriennes bombardent quotidiennement la région d'Idlib. Alors que les 3 partenaires du processus d'Astana, Russie, Iran, Turquie sont réunis depuis hier au Kazakhstan pour examiner la situation, le régime de Damas donne son feu vert pour un cessez-le-feu à Idlib, à la condition toutefois qu'un accord de désescalade conclu il y a 1 an entre la Turquie et la Russie soit appliqué. La Russie, où la situation sociale s'est dégradée en 2019. Vladimir Poutine a beau se donner pour objectif de diviser par 2 la pauvreté dans son pays d'ici à 2024, les derniers chiffres sont accablants. La statistique recense 500 000 nouveaux pauvres pour cette année. Élise Delève.
Près de 21 millions de Russes vivent dans la pauvreté, soit 14,3% de la population selon l'Institut Rostat. Et ce ne sont plus uniquement les couches les moins aisées et les retraités qui sont concernés. Les classes moyennes souffrent aussi. La part des Russes qui considèrent appartenir à cette classe a diminué de 60 à 47% en 5 ans. Les conditions de vie se durcissent. 12% des citoyens n'ont pas de quoi se nourrir convenablement. Presque autant ne peuvent pas se payer de médicaments vitaux. Alors que les hivers russes sont longs et rugueux, plus d'un tiers des foyers avouent ne pas pouvoir acheter de nouvelles paires de chaussettes à tous les membres de la famille à chaque saison. Vladimir Poutine compte résorber cette pauvreté grâce à ses projets nationaux, des constructions massives de routes, hôpitaux et écoles. Pas sûr que cela soit si efficace. La hausse de la TVA de 18 à 20% depuis janvier, ajoutée à la baisse des revenus des Russes, ne suffira pas à améliorer la situation économique. La publication de ces chiffres, en pleine vague de contestations politiques, a beaucoup fait réagir en Russie. Certains ironisent, 20 millions de pauvres en 20 ans de règne, Vladimir Poutine détient en effet le pouvoir depuis 1999, lorsque Boris Yeltsin le nomme président du gouvernement.
Les précisions d'Élise Delève. En République démocratique du Congo, selon l'OMS, une quatrième personne a été testée positive au virus Ebola. La frontière avec le Rwanda, qui avait été fermée sans explication des autorités de Kigali ce matin, a toutefois été rouverte après 8 heures de neutralisation. Donald Trump attise les braises dans la guerre commerciale contre la Chine. Il annonce son intention d'élargir l'imposition des droits de douane supplémentaires à la totalité des importations en provenance de Chine dans une série de tweets ce soir. Le président américain précise que son administration va infliger, je cite, de petits droits de douane supplémentaires de 10% sur les 300 milliards de dollars d'importations chinoises jusque-là épargnées. En France, la préfecture de Nantes interdit tout rassemblement samedi dans une grande partie du centre-ville de Nantes. La décision annoncée ce soir, alors qu'une nouvelle manifestation en hommage à Steve Maya Canisso est prévue après-demain. Certains voulaient faire de ce rendez-vous un rassemblement contre les violences policières, car la colère après les résultats de l'enquête de la police des polices n'est pas retombée, bien au contraire. Et notamment avec le témoignage de Romain, ce Nantais de 33 ans est cité par l'IGPN dans son rapport. Présent le soir du drame, il a effectivement porté plainte pour mise en danger de la vie d'autrui, sauf que le compte-rendu stipule que l'IGPN n'a pas réussi à le joindre, une version complètement démentie donc par ce jeune homme interrogé par France Bleu Loire-Océan.
Bien sûr, j'ai mis la main sur le rapport de l'IGPN qui dit qu'on a essayé de me contacter par téléphone, par mail, et que je n'aurais pas donné suite, mais pourquoi aller porter plainte alors et faire un signalement IGPN si c'est pour ne pas donner suite? Ma seule volonté, c'est justement de pouvoir témoigner. Moi, j'ai pas d'engagement politique, je suis pas politisé, je n'ai rien contre la police, j'ai rien contre l'IGPN, je veux simplement que la vérité soit dite, telle qu'elle est, puisque si je suis venu si tôt porter plainte, c'est justement parce que je voulais qu'une action soit menée. Donc qu'on dise que je n'ai pas répondu aux appels de l'IGPN, ou même à leur mail, que je n'ai pas reçu d'ailleurs, c'est faux. Donc je suis prêt à être écouté et je voulais être écouté durant l'enquête administrative, ce qui finalement ne sera pas possible puisque l'enquête administrative a été clôturée.
Interview signée Florian Cazola de France Bleu à Nantes. Toujours concernant la mort de Steve Maya Canisso, Gilles Legendre, le président du groupe LREM à l'Assemblée nationale, n'est pas favorable à l'ouverture d'une enquête parlementaire sur la mort du jeune homme, enquête demandée par plusieurs voix de l'opposition. Le drame de Nantes n'est pas sans lien avec la dégradation des permanences d'élus La République En Marche depuis début juillet. Déjà une quinzaine de députés concernés, des dégradations et des tags. Depuis le début de cette semaine, 6 permanences ont été visées, dont la dernière en date, celle du délégué général de La République En Marche, Stanislas Guérini. Les détails de Sophie Delpont.
La police tue, pouvait-on lire à côté de « Non au CETA » inscrit sur les vitres de la permanence du député de Paris et numéro 1 de La République En Marche. Les tags qui ont été inscrits s'ajoutent à une série trop longue de lieux de démocratie endommagés, a déclaré Stanislas Guérini sur Twitter. En 24 heures, 3 autres permanences de députés LREM ont été taguées près de Paris dans le Val d'Oise depuis mercredi soir, avec là aussi des slogans hostiles à la police en plus de ceux visant le CETA. Ces nouvelles dégradations interviennent en pleine polémique visant le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, à propos de la mort de Steve Maya Canisso. Après la découverte du corps du jeune homme dans la Loire lundi et la publication du rapport de l'IGPN dédouanant les forces de l'ordre. Les jours précédents, il s'agissait de départements ruraux avec des actions revendiquées pour certaines par des syndicats agricoles comme les jeunes agriculteurs. 5 permanences de députés LREM avaient été vandalisées, taguées ou murées, notamment dans la Creuse et dans le Lot-et-Garonne vendredi dernier. Et le samedi, à Perpignan, des manifestants, dont certains cagoulés, avaient brisé toutes les vitres de la permanence où se trouvait le député Romain Gros et tenté d'y mettre le feu en marge d'une manifestation de gilets jaunes. Le ministre de l'Intérieur avait alors qualifié les faits d'attentat, accusé là aussi par l'opposition d'attiser encore un peu plus les tensions.
Les précisions de Sophie Delpont. C'est à cette entreprise que l'on doit le sauvetage en 1917 des vitraux de la cathédrale de Reims, bombardée par les Allemands. Le célèbre atelier rémois Simon Marc a été placé en liquidation judiciaire, information de nos confrères de France Bleu Champagne. Cet atelier, qui compte encore 6 salariés, est connu mondialement pour le savoir-faire de ses maîtres verriers. Les repreneurs peuvent encore se faire connaître. La météo pour demain, vendredi 2 août, temps globalement ensoleillé. Il y aura toutefois de la
pluie sur les deux Savoies et le département du Doubs. Et les températures dans la matinée, 19 à Rouen, 21 à Lille, 23 à Bordeaux, 24 à Strasbourg et Lyon et jusqu'à 29 à Marseille et Ajaccio. Ce journal a été préparé avec Brice Garcia.